Voilà, c'est bien, j'aime bien, c'est rigolo, voilà. Bref, on s'en fout, cette phrase sera zappée, parce qu'en fait, quand je l'ai écrite, c'était bien, et quand je la lis, elle est nulle. Voilà.
Et celle-là, elle n'était pas écrite.
Voilà.
Et celle-là, elle était écrite ou pas?
Des fois, je devrais noter ce genre de truc aussi. Il paraît qu'il faut pas jouer avec la nourriture. Mais si la musique, c'est de la bouffe, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas jouer avec la musique? Ce soir, la team est d'humeur ludique. Sortez vos manettes, on lance la partie après le générique.
Beurrer de la cracotte.
La cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron.
Ah, la cuisine, c'est votre domaine.
Oui.
C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes.
Le matin, boire un verre d'huile d'arachide.
Vous n'avez rien contre les omelettes.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Et voilà votre triple glouton melba avec des cerises confites.
Yum.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est ça. Je sais pas, j'ai fait une faute de frappe. Non, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 19e épisode de la Tartime, l'émission qui décortique la musique de façon thématique. Gros sujet aujourd'hui, à savoir la musique dans le jeu vidéo. Enfin, on peut carrément parler d'un genre, donc il a fallu qu'on peaufine un peu pour se concentrer sur des cas où les deux sont indissociables. Quand on va plus loin que la bande son sympa qui accompagne le jeu, que la musique fait vraiment partie du jeu. Trêve de préambule, laissez-moi vous présenter le gang des gastronomes de la galette. Saluez le saltimbanque des espaces obscurs. Un son sale, saturé, sec et ou saccadé suffit à satisfaire sa soif. Il s'amuse des sensations viscérales de l'indus, du stoner ou de la house, mais aussi des subtilités esthétiques d'un poseur de 16 lignes. Il met du sens dans son ressenti, saisit le message social sous-jacent pour nous présenter son salon de curiosité. Vous ne serez pas stoïque face au stupéfiant Léo.
Et bonsoir, bonjour à tous, et j'avoue que c'est la meilleure présentation, enfin la plus précise sur mes goûts musicaux, j'aime beaucoup.
J'avoue que là je me suis dit on va pas faire trop du poétique mais on va essayer de faire du concret quoi.
Vous avez la description de mes goûts musicaux effectivement en une tirade, très sympathique,
cool.
Merci.
Ouais. C'est un savant cuistot sachant choisir des saveurs surprenantes et les sublimer dans des spécialités succulentes. D'une simple chanson d'un sombre artiste, il sait faire ressortir les subtilités comme les stupidités, les contrastes des musiciens qu'ils soient distingués ou sous-cotés. D'une chose, il fait sa prose et nous propose une composition qui sent l'osmose. Saisissez vos assiettes, Clément nous sort un sorbet ce soir. Salut Clem.
Que bonsoir, bonjour à toutes et à tous.
Comment vas-tu? Bien?
Ça va très bien, je suis content, je viens de réussir mon entrée sans bafouiller.
C'est vrai que c'était bien.
Voilà.
C'est vrai qu'il faut reconnaître quand c'est bien.
Je suis hyper content, donc du coup pour fêter ça, je vais...
Yes!
Et je suis Manu, chasseur d'histoire qui passe des semaines à se renseigner sur des classiques, à se questionner sur des samples de grosses caisses ou transcrire de l'estonien, à espérer l'inspiration et un soupçon de sagesse dès qu'il s'agit de transmettre un résumé de mes odyssées hasardeuses. Et surtout, surtout, savoir dire stop. Au menu de cette tartime vidéoludique, nous aurons d'abord une boucle de mort en rythme composée par Léo. Je vous servirai ensuite un rail shooter en solfège et Clem terminera en douceur avec pleine vitesse, grand saut, coup de poing. Eh bien, notre entrée, du coup...
Bah c'est moi l'entrée.
Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Vous avez encore faim?
Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu un peu particulier. Il est plutôt connu dans les amateurs de jeux indépendants. Conçu par Ryan Clark chez Brace Yourself Games, il sort officiellement en avril 2015. Le jeu s'appelle Crypt of the Necrodancer. C'est un roguelite assez classique. Et c'est quoi? Un roguelite, c'est un roguelike-like. Pas plus clair, je pense.
Oui.
Bon, cool. On va faire une petite histoire de ce genre de jeu vidéo. Le style vient de jeux de rôle IRL, genre Donjons et Dragons, quoi. Certains l'ont porté sur ordinateur, mais c'est vraiment le jeu Rogue en 1980 qui pose les bases du genre. C'est d'ailleurs pour ça que, par la suite, on appelle les jeux qui utilisent le même principe de base des roguelike, littéralement des jeux comme Rogue. Alors, Rogue, ça ressemble à quoi? À un jeu des années 80 déjà. Donc oubliez les graphismes 4K, les autres ou autres artefacts virtuels. C'est un jeu en un vide de commande, mais vous pouvez quand même déplacer votre joueur symbolisé par je ne sais pas trop quoi. C'est plus le système de jeu qui nous importe. Vous devez descendre dans un donjon souterrain, et le but est de ramener une amulette à la surface. Vous collectez des objets et affrontez des monstres dans un système de combat en tour par tour. Jusque-là, ça ressemble un peu à un jeu de rôle classique, un RPG quoi. Mais à la différence d'un Final Fantasy par exemple, dans Rogue, la mort entraîne un arrêt du jeu et vous devez tout recommencer. On appelle cela la mort permanente. Cette mécanique est associée à la construction aléatoire du donjon. Vous recommencez donc tout depuis le début, mais tout a changé. Le jeu n'est plus vraiment le même, et si vous connaissez les mécaniques, impossible de prévoir quoi que ce soit. C'est rageant, mais en même temps tellement addictif. Et pour vous récompenser de votre attention sur l'histoire de ces jeux vidéo, un extrait de la bande-son merveilleuse de cet opus de 1980. Ah, c'est un jeu de 1980 développé pour des terminaux Unix en 8 bits. Vous attendiez vraiment à des sons? Bon, bref.
Je suis en train de bugger, je fais quoi? Il est méchant.
Désolé, j'ai pas été gentil, je vous ai pas vraiment récompensé. Bref, des jeux suivent un peu le même schéma pendant plus de 20 ans, avec toujours ce système de mort permanente, de génération aléatoire des niveaux et de combat en tour par tour. Et en 2008, le jeu Spelunky reprend des éléments de la mort permanente et de la génération aléatoire des niveaux, mais simplifie le gameplay, en créant un jeu de plateforme un peu plus classique. C'est donc ça un roguelite. Spelunky n'est pas le premier du genre, mais a permis à celui-ci de devenir bien plus populaire. C'est plutôt un genre phare dans les productions indépendantes, et on peut citer les très très bons et très connus, The Binding of Isaac, Rogue Legacy, Enter the Gungeon, Dead Cell. Bref, vous aurez compris, les exemples ne manquent pas, et les mécaniques peuvent changer. Mais rappelez-vous que quand vous mourrez, vous recommencez à zéro. Mon clavier a connu quelques désagréments. Et là, vous vous dites, yes, mais en fait, on est dans une émission ayant pour thème la musique. Mm-hmm. Et si on voulait entendre parler de jeux vidéo, on aurait sûrement trouvé mieux qu'un mec qui fait plein d'approximations historiques.
C'est vrai.
Turututu, jeune innocent. Par un triple axel digne des plus grands gymnases, je vais retomber sur mes pattes. Crypt of the Necrodancer, comme son nom l'indique, se déroule dans le donjon du Necrodancer, un nécromancien qui ramène à la vie des créatures, mais ils deviennent des zombies danseurs. Le créateur a fait le pari fou de réussir à combiner un roguelite avec un jeu de rythme. Vous allez donc explorer un donjon pour descendre les niveaux un à un, récupérer des objets et affronter les boss pour réussir à tuer le fameux Necrodancer. C'est un jeu en top-down 2D, en 2D vu du dessus comme Pokémon ou Zelda sur Game Boy. Et vous n'avez que 4 boutons de direction. Votre personnage attaquera l'ennemi dans la direction que vous lui indiquez si vous y êtes collé. Après, avec des combinaisons de touches, vous pouvez activer des sorts, lâcher des bombes, etc. Mais la spécificité de tout ça, c'est que vous devez garder le rythme, puisqu'à chaque pulsation, vous pouvez faire une action. Les ennemis suivent également le rythme, et peuvent par exemple bouger dans une direction toutes les 2 pulsations. A vous donc de ne pas paniquer, et de ne pas vous retrouver sur la mauvaise case au mauvais moment. Garder le rythme vous confère un bonus d'argent, et parfois de dégâts. Ça peut être vraiment rapide, comme vous avez pu le voir. Le jeu a des graphismes en pixel art. Faut aimer, mais dans le style, c'est vraiment pas mal, pour le coup. Pour y avoir joué, c'est pas si évident que ça à prendre en main, même si les joueurs pro peuvent jouer sur des tapis de danse. Si vous voyez les trucs qu'on voit dans les salles d'arcade et que Scott Pilgrim maîtrise à la perfection.
Ouh, Scott Pilgrim.
Moi, perso, j'ai battu un premier boss et c'était un peu galère, et j'avoue que j'ai pas allé plus loin, c'est vraiment dur en vrai. Vous vous doutez bien que dans un jeu basé sur le rythme, la musique est importante. C'est donc un musicien déjà connu dans les jeux vidéo qui a composé l'intégralité de la BO. C'est Danny Baronowski. Il a déjà composé la BO de Super Meat Boy et The Binding of Isaac, qui font figure de référence dans le jeu indépendant.
Ouais.
Les rythmes varient en fonction des niveaux, de 115 à 175 BPM. Et vous avez même un boss avec une pattern où il faut mettre un temps dans son mouvement. un petit extrait pour que vous compreniez un peu. Ça c'est vraiment galère. Bon, personnellement je suis pas un gros fan de la BO, je la trouve un peu trop chargée, mais c'est surtout peut-être parce que j'ai entendu que les trois premiers morceaux en boucle, parce que je mourrais au bout du troisième niveau en fait. Bon, en comptant les musiques des lobbies, l'endroit où vous êtes avant de rentrer dans le donjon, il y a 27 morceaux, ça fait quand même une bonne variété finalement. Mmh. Mais bon, c'est moi 3 morceaux, enfin 4 avec le lobby quoi. C'est un peu relou. Mais vous vous doutez bien que, puisque le jeu est basé sur la musique, les développeurs allaient intégrer d'autres personnages, et donc d'autres styles de musique. Ouais. En tout, il existe 7 déclinaisons de la bande-son. Un petit montage de l'ensemble des morceaux du premier, du deuxième niveau, pardon. Juste pour vous donner un aperçu de tous ces styles. Donc c'était les 7 extraits, enfin c'est le même niveau, donc c'est le deuxième niveau, vous avez le même morceau, mais c'est juste différent en fonction du personnage que vous jouez. Voilà.
Mmh, okay.
Il y a donc une version de base, qui est celle de Danny Baronowski, la première que vous avez entendue. Il y a une version EDM, une version metal, une version rétro, une version synthwave, une version chiptune et une version Various. Oui, je recopie le wiki, désolé, je fais pas plus d'efforts que ça.
Ah, ça aurait été pas facile, notamment.
Ouais, la dernière a été un peu compliquée. Ouais. Mais c'est pas de ma faute, si je fais plus d'efforts, c'est parce qu'on est en juillet. Pour info, tout confondu, tous les morceaux, ça fait plus de 400 titres.
Ah ouais?
Ouais, en fait, le truc, c'est que le fichier du jeu vidéo est un peu lourd à cause de ça, parce qu'il y a plusieurs gigas de musique, voilà, puisqu'elles sont filées en version MP3, mais aussi en version FLAC, donc il y a vraiment... C'est assez cool, pour le coup. Et... c'est un poil répétitif parce que forcément c'est les mêmes morceaux, c'est la même construction, c'est la même mélodie. Mais si vous kiffez un peu ce style, allez-y parce que franchement dans le genre c'est vraiment hyper intéressant. Et oui. Si vous aimez pas du tout la musique, vous pouvez la remplacer par la vôtre. Genre utiliser une seule musique pour l'ensemble des niveaux. Parce que ça change le BPM en fonction de l'endroit où, enfin dans le niveau où vous êtes. Mais je suis pas bien sûr que ça vous fasse vraiment aimer le morceau du coup, parce que ça va être un peu relou. Je conseille tout de même de mettre un truc que où vous entendez bien le temps, genre de la techno. La techno, c'est toujours bien pour jouer aux jeux vidéo. Et avant de passer la main, j'ai oublié de préciser que dans chaque niveau, vous avez un marchand. Et que quand vous vous approchez de lui, il se met à chanter. Et ça, c'est plutôt drôle. L'effet comique, tout ça, quoi. Enfin, vous voyez. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que le jeu a tapé dans l'œil de Nintendo. Et il existe depuis 2019 un jeu nommé Cadence of Hyrule, qui est bien sûr la version Crypt of the Necrodancer de...
Ah, c'est sur Zelda qu'ils ont fait ça ?
Ouais. Et c'est d'ailleurs la première fois que Nintendo vend une licence, enfin une de ses licences phares à un indépendant. Oui, enfin, en tout cas, donne le droit de l'exploiter. C'est assez exceptionnel d'ailleurs.
Ah ouais, putain, je pensais que c'était dans l'autre sens, tu vois. Que
non, en fait, c'est vraiment les gens. Il est d'ailleurs sous-titré, je sais plus, à Zelda, Crypt of the Necrodancer Like ou un truc
dans le genre. Featuring The Legend of Zelda. Ouais, ce que j'ai
dit. Et du coup, ils ont vraiment réussi à prendre tout l'univers. Et c'est pareil, c'est du coup un roguelite avec, où il faut taper en rythme. Il a l'air quand même un peu plus facile que Crypt of the Necrodancer, sachant que c'est un truc qui est fait pour la Switch. donc qui est moins enfin qui est moins truc de connoisseur quoi, donc
tu peux dire connaisseur hein, je crois que le terme existe.
Ouais, mais connoisseur parce que ça fait un peu pédant, tu vois.
Je ça fait dire. Américain qui essaie de se la péter avec un mot français qui n'existe pas, tu vois.
A connoisseur. Voilà, c'était un peu ma petite présentation de Crypt of the Necrodancer. Donc si vous aimez bien les roguelites, le jeu est vraiment cool et dur, mais une fois que t'as chopé un peu le coup de main, ça devient assez cool c'est cool à prendre en main.
Et du coup, toujours en rythme.
Le mec qui a arrêté au niveau 3.
Toujours. En fait, le truc, c'est que ce que je disais, c'est que si tu gardes le rythme, tu gardes des bonus de gains d'argent pour aller au marchand et tout ça, et t'as des armes qui sont calquées sur ce bonus-là pour faire plus de dégâts. Et le truc, c'est que t'as un mouvement par temps, en fait. Donc, du coup, tu peux pas te barrer plus vite.
Ouais.
Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Des fois, c'est vraiment pas évident, quoi. Puis surtout que c'est pas très clair. Des fois, la pattern des ennemis, tu la comprends pas vraiment. Donc, tu sais pas à quel moment il faut se mettre. Ou il y en a qui attaquent en diagonale, il y en a qui attaquent tout droit et tout. Donc, mais le jeu est vraiment hyper intéressant. Et c'est chouette d'avoir pensé à ça.
Quand tu faisais justement le lien avec Binding of Isaac, comment t'as dit le gars? C'est Baranowski, c'est ça?
Baranowski, tout à fait.
C'est marrant parce que ça m'a rappelé avoir pas mal joué à ce jeu et cette même sensation de te dire ah, la musique est cool, mais en fait. Vu quand tu bloques toujours sur les 3-4 premiers trucs, t'as l'impression de t'entendre toujours.
Je sais pas, je suis rendu à 130, à 200 heures sur Binding of Isaac, oui, mais... donc je crois que je connais un peu tout. Non, c'est pas vrai, je coupe la musique, je mets des podcasts en même temps.
C'est
mal. Mais ça me permet de gagner du temps. C'est genre le mec optimise son temps pour jouer aux jeux vidéo.
C'est ça.
Et non, The Binding of Isaac est très différente par contre, la BO, elle est beaucoup plus...
oui, c'est beaucoup plus ambiance.
C'est,
hein,
ouais, c'est moins électro, voilà, mais il n'y a pas besoin d'avoir ce kick tous les temps.
Moi, je joue à... Bah, du coup, de Super Meat Boy.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, moi, j'ai rage quitté ce jeu.
ouais, mais. Je m'étais bien démerdé à un moment donné. Et puis en fait, j'ai arrêté de jouer. Et du coup, tu perds toutes tes skills. Et quand tu reviens, tu fais oh, putain, il faut que je recommence du début pour.
Ouais. C'est ça.
Ah, je veux bien
pour croire. Récupérer un peu la mécanique du jeu. Mais bon, rien à voir. Moi, j'avais. J'imagine, tu m'as dit qu'il y avait 7 persos. Et en fait, les musiques sont différentes en fonction des persos, c'est ça?
Ouais, il y a plus de. Plus de 7 persos, mais en tout cas, il y a 7 persos avec des bandes son différentes.
D'accord. Mais et du coup, en fait, chaque perso a des skills différentes. Des
ouais,
capacités
c'est ça,
différentes.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ah ouais, donc du coup, tu peux te retrouver à kiffer les skills d'un perso et avoir une musique qui te plaît pas du tout.
C'est
ouais.
ça, tout à fait.
Et donc, ouais. du coup, moi, c'est le genre de truc pour avoir la musique que je veux, je joue avec un personnage qui me plaît pas.
Ouais, mais alors le truc c'est que comme je te disais, tu peux vraiment changer la bande son. Donc tu peux mettre la bande son d'un autre perso sur
d'accord.
celle que tu veux. Non, pour le coup, le jeu est vraiment bien pensé. Enfin, c'est vraiment un jeu de rythme quoi. Donc tu peux vraiment t'improviser. Enfin, tu peux. Enfin, tout a été pensé pour la musique quoi.
Mm.
C'est pas c'est pas un truc où ils se sont dit ouais, on a un bon délire, mais on va pas pousser le truc jusqu'au bout parce que enfin quand même la BO a été toute produite vraiment par la même personne. Je pense que ça a été vraiment fait en connaissance de cause et tout. Enfin, c'est hyper intéressant.
Tu sens que le jeu a été fait avec vraiment la musique en tant que point central, au niveau vraiment de la création des personnages et tout, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et c'est pas un truc secondaire, quoi. Et du coup, les 7 persos sont disponibles de suite ou ces genres de trucs où genre...
Ah
tu
bah non
avec...
ouais, voilà. Non, t'es obligé de les débloquer. Il y a notamment des persos qui sont en DLC, forcément, parce qu'il faut bien des persos en DLC, sinon c'est pas drôle. Mais voilà.
Bah écoute, merci Léo. En tout cas, c'était très sympa. J'avoue que je connaissais
merci Léo.
Pas du tout ce jeu. Je connais un peu ce genre de jeu pour en avoir fait pas mal dans ce style-là, mais j'avoue que celui-là, je ne le connaissais pas du tout.
Il est dur à prendre en main. Enfin, il est très différent parce que t'as vraiment ce truc de rythme et de pas... Enfin, tu sais, d'habitude, t'avances, tu tapes. Enfin, tu vois, il y a ce truc un peu logique. Là, c'est... T'as juste les 4 boutons de direction, quoi. Donc, en fait, t'es un peu perdu des fois de te dire, mais en fait, si je l'attaque, comment c'est... Enfin, bref.
Ouais, non, je comprends.
Mais il est cool. Il est très cool.
Ok.
Non, mais je l'ai mis dans ma wishlist.
Steam,
c'est ça.
T'as des
non,
petites...
j'ai pas Steam.
T'as pas Steam.
Il est sur quoi PC. D'ailleurs, ce jeu
Xbox, je l'ai trouvé.
Ouais, je pense qu'il est sur PC. Enfin, il est sur tout. Hein. Les gens indés comme ça, ils ont
oui,
été
bah
sur
oui,
tout.
Oui.
Sachant
il
que
est
c'est
sur
un truc.
Steam, je l'ai vu sur Xbox. Il doit être sur PlayStation, du coup.
Ouais, je pense qu'il est même sur. Ils l'ont même porté sur Linux et tout. Enfin, tu vois, c'est des gens indés. Ils savent qu'il faut qu'ils aillent taper un peu tout le chaland pour réussir
ouais,
à faire des trucs. Après, c'est un vrai best-seller, quoi. Enfin, tu vois, dans le genre, c'est un peu un classique, on va dire.
Ok. Cool. Bah écoute, je note ça de côté. Ça m'a l'air fort intéressant. Sur ce, je vais vous apporter le plat de résistance.
Il semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet donné en mon honneur.
Donc pour cette tartine, je voulais trouver un jeu musical qui ne soit pas juste une bonne BO, ou qui ne consiste pas juste à reproduire une musique en appuyant juste au bon moment. En fait, est-ce qu'on peut créer de la musique dans un jeu vidéo ? J'ai découvert Otoki, un jeu sorti en 1987 au Japon. Il a été édité sur Famicom Disk System, c'est-à-dire un périphérique de la console Famicom. Alors la Famicom, c'est l'équivalent de la NES, la première Nintendo chez nous. Et du coup, le Disk System, ça a été un produit majeur au Japon parce que ça permettait de lire des disquettes. Et c'est un système qui est resté au Japon, ça n'a jamais été vendu ou adapté à l'étranger. Donc Otoki reste quand même un jeu assez obscur. Mais pour autant, le fait de pouvoir adapter justement ce jeu sur disquette est lié au fait que la machine avait des capacités audio qui étaient assez remarquables. Et du coup, c'est la première fois qu'on s'est dit, bah tiens, on peut vraiment essayer de pousser un jeu qui soit orienté autour de la musique. Donc Otoki est un shoot'em up musical en side-scroller. Pour être un petit peu plus clair, on contrôle un personnage qui se déplace sur un décor qui défile horizontalement et on tire sur les cibles qui apparaissent. On peut donc viser des ennemis et aussi et surtout des notes de musique. On les collecte pour finir le niveau. Et ce qui va faire la particularité du jeu, c'est que notre arme est une balle qu'on dirige en 8 directions possibles. Et chaque fois qu'on tire, on joue une note de musique différente selon où on vise, et qui s'accorde avec la musique de fond. Et on a donc une rythmique simple, un son de basse, une percu, parfois une mélodie, sur lequel on peut improviser. Et puis en plus, on a aussi des bonus qu'on peut attraper. En l'occurrence des lettres, le A qui fait changer l'instrument de musique, et le B qui offre une arme secondaire. Alors le niveau tourne en général en continu jusqu'à ce qu'on trouve toutes les notes nécessaires, et ensuite on affronte un boss qui a la forme d'une énorme note de musique. Alors dans un premier temps, c'est sûr qu'il vaut mieux voir à quoi ça ressemble pour bien se faire une idée. Je vais vous mettre un lien vers une vidéo pour que vous compreniez le procédé, mais déjà voici une version audio de ce que ça peut donner. Ce jeu au Toki, les gars?
Absolument pas.
Oui, lorsque je suis parti au Japon dans les années 80, j'avais une Famicom.
Ouais.
J'avais joué avec mon colocataire. Non, je ne connaissais pas. Désolé.
Par contre, tu dis, c'est 86, tu disais?
87.
87. En 7 ans, le bon entre justement Rogue, si vous avez été allé voir les graphismes et ça. Il y a de la petite technique.
C'est pour ça que la première Nintendo a vraiment été un renouveau pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que là, d'un coup, tu te dis, on est passé sur un truc complètement différent. Vous en pensez quoi d'ailleurs? Ça vous a plu? Le concept vous a surpris? Ou voilà, votre ressenti à chaud?
Bah, en fait, pour 87, justement, je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait un truc avec des sons 8 bits qui sonnent un peu rétro aujourd'hui, mais en vrai c'est cool. Enfin, je pense que tu découvrais ça au tout début des années 90, tu devais être genre fou quoi. Tu peux faire de la musique sur un jeu vidéo en jouant quoi.
C'est ça.
Après, le principe du jeu a l'air un peu relou. Gameplay en tant que tel.
Bah, t'as un côté un peu redondant dans le sens où t'as toujours ce mode de jeu du coup en side-scroller où tu te déplaces et du coup les trucs arrivent en face de toi. Tu tires, tu collectes des notes et en fait, je crois que t'as une dizaine de niveaux. Parce qu'ils ont réussi à mettre une intrigue, parce que enfin, on va pas se mentir, mais tous les jeux à l'époque c'était genre oh tu es le héros, tu dois collecter les trucs pour battre un boss, et quand tu auras fait tous ces niveaux, tu vas battre le boss final et sauver machin et tout. Donc ils ont quand même eu. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un jeu musical, mais en fait intégré dans un jeu comme ça en side scroller en mode un peu aventure. Donc pour le coup c'est assez original. Clem, t'en as pensé quoi toi?
Non, bah, je te dis, dans les années 80, quand j'étais en colocation. Non.
le running gag de merde.
Ouais, enfin, tu te lances sur des choses.
Je vais l'arrêter parce que du coup, je sais pas où je vais aller avec ce truc. Je vais me retrouver marié avant la fin de l'épisode avec trois enfants. Je sais pas. Non, j'ai trouvé que c'était. C'est en fait, effectivement, le gameplay est pas ouf, mais par contre, faire de la musique en même temps, ça devait être complètement dingue. Et à mon avis, tu passais plus de temps à faire un niveau
ah
en
oui,
disant, hey, si j'utilise ça, parce qu'en plus, t'as des variations quand tu chopes des objets, donc tu te dis, tiens, si je les chope tout de suite. Et je pense que bah, tu passes plus de temps à faire de la musique plutôt qu'à vraiment jouer au jeu en soi, quoi.
Ouais, bien
enfin, moi, c'est comme ça que je jouerais, perso. Mmh.
Ben justement, parce que c'est alors déjà deux bons points que tu as fait, notamment premier point, notamment quand tu disais que la musique elle change, ça c'est un truc que j'ai trouvé assez cool parce que sinon on pourrait se dire, bon, la même rythmique va être na 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 na, au bout d'un moment ça te saoule un petit peu. Sauf que du
bah,
coup,
clairement, si tu fais pas d'action, c'est chiant là.
Bah voilà, c'est ça.
Vu que tu as eu deux bons points, tu as le droit à deux petites coccinelles.
Waouh,
merci.
Quelle chance, où est-ce qu'ils les trouvent? Donc ouais, la musique évolue au fur et à mesure du niveau. On a du changement de ton, des fois du changement d'accord ou tout, et du coup ça permet en fait d'apprécier un peu plus longtemps le truc. Et en fait, il y a tout ce côté aléatoire qui offre une bonne rejouabilité parce que bah du coup, vu qu'en fait tu peux faire un peu ce que tu veux en termes de musique, ça fait que chaque partie va être un peu différente. Et en fait, une fois qu'on a fini les 11 niveaux du jeu, on a accès à deux modes supplémentaires, un qui permet de refaire les niveaux sans les ennemis. Donc du coup, t'as juste à t'amuser à faire de la musique. Et t'as un autre mode où tu peux créer et monter tes propres compos.
Ah oui, d'accord, ok.
Et je vous ai trouvé un exemple de composition. Alors c'est une vidéo tirée d'un YouTube japonais qui s'appelle Nico Video. Donc voilà.
C'est incroyable que tu aies réussi à remettre la main sur ma sauvegarde que j'avais avec mon colocataire dans les années 80 au Japon.
Oui, la blague allait quelque
l'a mis
part,
en ligne.
Putain.
<C'est ça. rire>
D'ailleurs, il t'a fait coucou, il a laissé un message en japonais, je l'ai passé dans un traducteur. Par contre, il sait pas écrire Clément, en bref. Donc ouais, si vous avez pu voir notamment, alors déjà écouter à peu près à quoi ça ressemble, mais ce qui est assez impressionnant, enfin, je veux dire, c'est quasiment un système de logiciel de montage audio, quoi. On a 5 pistes, on peut utiliser 4 éléments mélodiques, une percussion, on peut choisir les instruments, on peut choisir les effets, on peut choisir aussi le tempo. C'est hyper complet pour un, on va dire, c'est un mode en plus qui a été ajouté au truc. Et au final, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et ouais, je rappelle que ça a été fait en 1987, quoi. Moi, je suis assez épaté, en fait, du niveau, en fait, de détails, en fait, qu'ils ont mis dans ce mode de jeu. Alors pour info, Otoki c'est l'œuvre de Toshio Iwai. C'est un artiste connu pour ses installations qui mêlent son et interactivité. Et en fait ce jeu c'est une de ses premières créations quand il était encore étudiant en art plastique. Il était fasciné par la production de musique aléatoire et il a ainsi créé le premier jeu qui intègre de la musique générée de façon créative. Toshio Iwai il a ensuite lancé le concept de Sound Fantasy qui était prévu pour la Super Nintendo. Dans le jeu, des insectes animés traversent une grille qui contient des points colorés. Quand les insectes se déplacent sur les points, ça déclenche des sons, des gammes et des effets sonores. Le joueur peut aussi choisir des couleurs et les appliquer sur la grille, ce qui donne de nouveaux résultats et la possibilité de changer le sens de déplacement des insectes. C'est donc une adaptation du concept d'Otoki sur un type de jeu complètement différent et avec encore plus de possibilités. D'ailleurs, la cartouche contenait en fait 4 jeux musicaux qui suivaient ce même modèle. Sound Fantasy a été achevé en 1994 et on s'attendait à ce que ce soit un équivalent de Mario Paint, mais pour l'audio, quoi. C'est-à-dire vraiment un jeu créatif, parce que Mario Paint, c'était vraiment le côté créatif de peindre, dessiner, quoi. Là, c'était vraiment sur le côté audio. Malheureusement, le jeu n'est jamais sorti. Nintendo l'a jamais publié, et sans que Toshio Iwai ne sache vraiment pourquoi. Ils l'ont jamais expliqué vraiment. Ça devait sans doute pour des raisons purement marketing. Grâce aux internets, un prototype du jeu a été remis en ligne illégalement en 2015, et je vous en propose un petit extrait. We'll be right back. Donc voilà, donc Sun Fantasy, alors l'extrait que vous avez pu entendre et j'espère voir. Donc on voit notamment une espèce de petite libellule qui passe sur des plateformes et tout. Bon, en fait, concrètement, le but du jeu, c'est de s'amuser à changer les notes à chaque fois et bah, avec un tempo qui est de plus en plus rapide. Donc voilà, c'est, comment dire, c'est un jeu musical, mais qui n'est pas non plus aussi, comment dire, aussi abouti au niveau créatif que ce qu'on a pu voir précédemment. Mais voilà, on voit un peu du coup comment cette idée d'un jeu vraiment orienté sur la musique a pu se développer. Alors, faut savoir que des éléments de gameplay de ce jeu, donc Sound City qui n'est pas sorti, ont ensuite été repris dans le jeu SimTunes en 96. Donc SimTunes dans la famille des Sims et des SimCity. Mais si Otoki a bien un successeur, c'est Rez. Tetsuya Mizuguchi est un designer et producteur de jeux vidéo qui a passé une bonne partie de sa carrière chez Sega. Lors d'un séjour à Zurich en Suisse en 1998, il se rend à un festival de musique et se met à observer comment les gens bougent en fonction des sons et des couleurs. Il va alors s'intéresser au phénomène de synesthésie, c'est-à-dire par exemple le fait d'associer un son avec une couleur. Par exemple, pour moi, un la c'est jaune. Et vous ?
Ah, j'ai pas du tout ce phénomène-là, mais il y en a, c'est avec des chiffres aussi. Moi j'avoue, c'est très distinct.
C'est pas un truc automatique.
Là, c'est jaune. Mais quel genre de jaune ?
Un jaune un peu paille, tu vois.
On est un peu sur du jaune sang ou
ouais,
un jaune.
Est-ce que t'entends vraiment un la tout le temps ? C'est-à-dire que du coup, quand t'entends un la, tu le vois jaune tout le temps.
Non, justement, c'est pour ça. Mais c'est pour ça. On va dire
la synesthésie. C'est quand tu prends ta
guitare, chez qui c'est presque considéré comme une maladie.
Ouais,
comme un syndrome,
parce
que c'est vénère. C'est vraiment, ils partent du principe que voilà, dans leur tête, c'est vraiment ils interprètent une note, une couleur. Moi, c'est juste qu'il y a des fois quand je joue comme ça, je me dis tiens, s'il y avait une note à donner à cette, enfin une couleur à donner à cette note.
C'est toi qui fais une année. C'est toi qui fais
une analogie. Des fois, un ré, j'imagine que c'est vert. Mais des fois ça marche pas forcément, tu vois, donc c'est mais voilà, c'est je trouve ça toujours assez rigolo comme concept. Et du coup, en s'inspirant de ça, donc du coup le on va dire comment les gens en fait réagissent à la musique et aux couleurs, Tetsuya Mizuguchi, il a créé trois jeux musicaux basés sur le rythme. D'abord, il a fait deux éditions de Space Channel 5, qui est un jeu de danse et de tir dans une histoire de science-fiction futuriste dans les années 60.
OK.
Voilà. Qui a l'air assez délire en fait, et qui sera un précurseur des jeux de rythme actuels en fait. C'est assez impressionnant comment c'est pas un jeu très très abouti, mais on voit à peu près tout le cheminement qui a pu être fait derrière, justement sur les jeux musicaux et les jeux de rythme. Et du coup, en parallèle, il a fait Rez. Alors Rez, R-E-Z, c'est un rail shooter, c'est-à-dire qu'on suit automatiquement une route spécifique avec notre personnage qui se déplace dans l'écran. En l'occurrence, on joue un hacker qui infiltre une intelligence artificielle déficiente pour détruire des virus et des programmes corrompus, le tout dans un univers en 3D. Je vous en montre un court passage.
Ça a l'air ultra merdique. Enfin, pas merdique. le terme a été plus vite que ma pensée. Ça a l'air hyper compliqué, en fait. C'est ça, surtout. Quand je dis merdique, c'est en jouabilité. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de compétences là-dessus.
Bah, en tout cas, ça demande de la concentration, je sens.
Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il y a beaucoup de trucs visuels, mais que ça a l'air plus simple que ça n'y paraît.
Et voilà.
Je pense que c'est un peu ça, en fait, le truc. C'est que du coup, tu te laisses porter. Les rail shooters, c'est jamais très complexe, en fait. Je pense que tout tourne autour de la musique et tout, mais je sais pas.
Enfin, en fait,
je sais pas d'avis.
Ce qui est. Non, mais du coup, ça se complète ce que vous avez dit tous les deux, parce que. Alors. J'ai pas testé le jeu, désolé, parce que j'ai pas de Dreamcast sur moi. Et
tu peux avoir des émulateurs.
Et oui, j'aurais pu choper un émulateur, mais là j'avoue, je l'ai pas fait. Donc j'ai surtout regardé des vidéos pour voir comment c'était fait. En fait, je suis d'accord que visuellement, en fait, il y a des fois, tu dis, oui, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué de comprendre comment c'est fait. Alors qu'en fait, ça reste un truc, entre guillemets, assez automatique dans comment en fait la progression du niveau se fait. Donc on s'y retrouve assez facilement au final. Alors visuellement, ce qui est rigolo, c'est que Rez, ça rappelle à la fois Tron, ça rappelle un peu Matrix, et en même temps c'est très inspiré de Alors, de ce que j'ai pu voir plusieurs fois, ce qu'il disait, c'est très inspiré de la scène rave, en fait. C'est visuellement, ouais. sur tous les choix, en fait, de couleurs, de néons et tout, et puis, bah, bien sûr, la musique qui a été choisie derrière, fait qu'on est vraiment dans cette ambiance un peu techno-futuriste, quoi.
C'est fait très trans. Ouais. C'est la musique trans, quoi, le truc où tu t'embarques dans un truc.
Bon, sachant que c'est un jeu qui a été développé à la fin des années 90, donc c'est vrai que, bon, même, on va dire, pas pendant plusieurs années, donc ouais, c'est vrai que... C'est, en fonction de la culture de l'époque, c'est quand même assez marquant. Côté gameplay, le concepteur il a voulu que le joueur en fait crée de la musique en détruisant les ennemis, mais aussi qu'il y ait des vibrations dans la manette pour améliorer l'expérience sensorielle. Alors faut savoir qu'à l'époque, les jeux musicaux étaient assez marginaux, donc il a quand même fallu faire beaucoup de recherche et développement. Il y a certains trucs où aujourd'hui on se dirait oui bah oui ok ça paraît évident, sauf que faut remettre ça dans le contexte. Donc du coup c'est il y a 20 ans, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout faites, notamment sur comment utiliser justement la musique en tant que gameplay. Et l'adapter sur ce type de concept. Alors, quels sont les genres musicaux les plus adaptés pour retranscrire l'ambition de Mizuguchi, à savoir faire ressentir une expérience instinctive et synesthésique pour les joueurs? Et ben, après une longue réflexion, ils se sont dit que c'était de la techno. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez pu entendre, parce que c'était facile pour les développeurs d'isoler une seule note et de modifier en fait le tempo de la musique et de faire un truc qui soit assez fluide, sans qu'on ait des moments où ce soit choquant en fonction des transitions. Et du coup, pour ça, Tetsuya Mizuguchi, il a fait appel à plusieurs artistes pour produire la musique du jeu, dont le duo anglais Cold Cut. Je vous propose un petit extrait d'un morceau qu'ils ont fait pour le jeu. Point important, le concepteur Mizuguchi, il voulait que le tir du joueur provoque des sons à la manière du call and response, ce qu'on appelle en fait l'appel et la réponse, qui est un gimmick musical en fait qui existe depuis des générations et des générations, qui traverse un peu les genres, depuis le gospel jusqu'au DJ actuel. C'est ce côté de l'appel et la réponse, quoi. Et si le joueur il est pas bien dans le temps, même s'il se mélange les pinceaux, c'est pas grave. Du moment qu'il répond à l'appel, le jeu en fait va recalibrer les sons pour qu'ils soient en rythme avec la bande sonore. C'est ce qui fait qu'en fait, le jeu, il évite d'avoir des décalages et il garantit en fait d'avoir une certaine fluidité. C'est un des points qui va faire la différence du coup avec des purs jeux de rythme où en fait, il faut juste être bien dans le temps. C'est que là, en fait, on est vraiment plus dans un truc créatif où il faut répondre aux commandes qu'il faut faire, mais en même temps, c'est plus l'ambiance que juste se baser purement sur le rythme. Alors donc, le jeu sort sur Dreamcast fin 2001 au Japon et sur toutes les consoles de l'époque. Et évidemment, vu sa spécificité, Rez est un de ces jeux ultra respectés, très bien notés, mais très peu vendus, surtout en dehors du Japon, sans doute.
Notamment aussi parce que la Dreamcast a été la fin de Sega, peut-être.
Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est la console qui a du mal à se vendre en dehors du Japon, un concept de jeu assez particulier. C'est visuellement aussi, c'est quand même très typé, donc je peux comprendre que c'est des choses qui sont pas faciles à vendre et que du coup, même si le jeu est hyper respecté encore aujourd'hui,
ouais.
C'est ça reste un truc un peu de niche, quoi. Alors pour info, une BO du jeu est sortie dans la foulée où chaque piste était un remix d'une piste utilisée dans le gameplay dans sa forme la plus aboutie. Donc je vous propose d'écouter un petit bout de Buggy Running Beeps 01, qui est du coup une piste tirée du premier niveau. Tu me disais hors antenne que ça ressemblait plus à de la trance que de la techno.
Tout à fait. Non mais voilà, c'est plus.
Et pourquoi la... Sur quelle spécificité du coup?
Parce que la basse est un peu plus rebondissante, elle est pas. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer et je comprends pas vraiment, mais en fait c'est plus sur l'atmosphère, effectivement, psyché techno, c'est un peu ça. Après, franchement, là c'est faire le pointilleux, mais la trance c'est plus de la musique électronique un peu. ouais, transe en fait. Ça t'apporte dans une transe un peu dans un monde interne.
Voilà. Alors, j'avais une question à vous poser justement après cet extrait. C'est, est-ce que vous trouvez qu'on sent que c'est une musique de jeu vidéo ?
Non. J'ai bien répondu ?
Bah, c'est tout ma vie. Donc oui.
Non.
Bah, non, en fait, c'est pas une musique de jeu vidéo de 2001, en fait. C'est ça le truc. C'est que du coup, si tu remets dans le contexte, à l'époque, c'était vraiment des bandes-son spécifiques, j'ai quand même l'impression, tu vois. Maintenant, tu peux avoir ça en bande-son, mais en fait, tu l'entends pas. Enfin, tu vois, un Mass Effect, tu pourrais avoir. Enfin, j'ai jamais joué à Mass Effect, mais je veux dire, vu que maintenant, c'est des musiques créées pour les jeux et tout. Mais ouais, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est étonnant pour un jeu de ces années-là.
Bah, comment dire ? C'est...
Disons, j'ai pas l'impression que les musiques soient été faites spécifiquement pour le gameplay. J'ai l'impression que c'est plus le gameplay qui s'est adapté aux musiques.
Ouais, je vois ce que tu. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
C'est l'impression que j'ai eu aussi, en fait, c'est de comment dire. La première impression que j'ai eu, je me suis dit, ah, c'est cool, ils ont vraiment repris en fait le même concept un peu que Otoki, et en fait, ils l'ont quand même vachement réduit, et du coup. La musique a pas le même rôle, en fait, je trouve, dans le jeu. Et du coup, bah, ça, je pense que des fois, ça peut être un peu frustrant. Mais en même temps, je pense que quand t'es vraiment pris dans l'ambiance du jeu, la musique correspond totalement à l'aspect visuel. Donc, je pense que, en fait, c'est un de ces trucs où tu le prends à froid, tu vois pas le rapport avec le jeu. Mais en fait, dans le contexte du jeu, ça s'intègre parfaitement, quoi. Et pour conclure, comme l'expliquait, Tetsuya Mizuguchi, Rez, c'est un peu le concept d'une vie, c'est une idée sans fin. En fait, les évolutions technologiques ont permis d'affiner le gameplay, et on retrouve des sensations similaires à Otoki il y a plus de 30 ans. On joue au jeu et avec le jeu, dans une expérience sensorielle à la fois créative et instinctive, où il ne s'agit pas juste d'appuyer au bon moment, mais bien de faire des notes qui vont s'adapter et faire évoluer le reste de la musique. Comme si tu prenais ton instrument pour faire un jam avec ta console. Voilà.
Oh, c'est stylé ça, j'aime bien l'idée.
Ouais, je me suis dit que ce serait marrant à faire. Mais... Donc voilà, donc, si jamais vous avez d'autres exemples de jeux dans ce type-là, je suis assez curieux parce que on trouve pas mal de jeux justement qui reposent sur la musique, vraiment sur le côté rythmique. Après, plus sur ce côté un peu, on va dire, créatif, improvisé, on va dire, ouais, vraiment improvisé. C'est quelque chose d'assez rare et je pense tout simplement parce que, un, c'est pas facile à développer et deux, bah, il faut trouver le public pour ça.
Ouais, c'est très spécifique, quoi. T'es pas comme un Guitar Hero, un King Konga, des trucs comme ça.
Bah, c'est ça. Qui sont des trucs beaucoup plus abordables, beaucoup plus faciles à vendre, quoi. C'est... Là, au contraire, je pense qu'à mon avis... Bah, d'un côté, tu peux avoir quelqu'un qui joue à Rez et à côté, quelqu'un qui danse sur la musique. Je pense que c'est possible.
Non, mais un jeu comme ça, ça peut être super intéressant à jouer en mode Oculus Rift, tu sais, avec une immersion totale. Ça peut être vraiment très intéressant. Après, voilà.
Grave, non, c'est vrai. Et juste pour l'anecdote, le même concepteur, il a aussi développé un jeu pour Ubisoft avec à peu près le même concept et le même gameplay que Rez, qui s'appelle Child of Eden, donc l'enfant de l'Eden. Mais voilà, tout ça, je l'ai trouvé visuellement un peu encore plus compliqué à comprendre, donc c'est pas très abordable. Mais voilà, si jamais vous êtes curieux, je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil déjà à Otoki, parce que même si voilà, il est pas tout jeune, le concept est rigolo et c'est... Ça a l'air très très intuitif. Enfin, rien qu'à regarder, c'est quand même très intuitif. Donc voilà, si ce genre de délire vous plaît, ça peut être assez rigolo à tester. Et puis bah Rez, et si jamais des gens connaissent un peu Rez et y ont joué, bah n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour dire ce que vous en avez pensé, si c'est compliqué en prise en main, si on est bien dans la musique ou si on en sort complètement. Donc voilà, ça permettra de me faire un petit peu une idée sur ce jeu. Voilà, donc c'était mon petit plat de résistance. J'espère qu'il vous a plu.
C'était fort sympathique et très intéressant, effectivement.
Merci Manu.
Mais de rien. Est-ce que après ce plat, on ferait pas une petite pause avec un petit jeu ?
Bah écoute,
oui alors, faisons un jeu.
Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année.
J'ai pondu un jeu à la dernière minute, mais je me suis dit, on va pas quand même se passer d'un jeu, ce serait dommage.
Oui, comme je disais, nous sommes en juillet. Désolé, on n'a pas tous le temps.
Oui, mais ça change. Oui, moi ça me change pas, mais bref.
Ça te change.
On n'a pas joué à la cuvée depuis pas mal de temps, mais là je me suis dit que vu le thème, ça pourrait être sympa de tester nos aptitudes chronologiques. Je rappelle le but du jeu, donc la cuvée, je passe un extrait, je vous demande pas le nom de l'artiste, du morceau ou même la couleur de cheveux de l'ingé son, mais bien l'année de sortie. Donc là je vais vous présenter 4 extraits de musique de jeu que je trouve assez remarquables. Il risque d'y avoir plutôt des sons rétro, mais pas forcément. Petite spécificité, je vais juste mettre une valeur planchée. On remonte pas à avant 1985, parce que c'est l'année de sortie de la première Nintendo, et avant c'est la préhistoire, Donc on va dire que voilà, pour les musiques de jeu, wow, essayez pas de chercher avant 85 et après bon, ça vous laisse
pour
quand même.
Pour ça, vous pouvez vous repérer à mon premier extrait sur Rogue. Voilà.
D'accord.
Ça ressemble à ça.
Bien vu. Et exceptionnellement, comme les jeux sortent pas partout en même temps, j'accepterai les approximations. C'est-à-dire si un jeu est sorti genre en novembre 99 au Japon et en janvier 2000 en Europe, bah ça marche pareil pour les deux quoi. Si vous me donnez 99 ou 2000, ça compte. Bon, par contre, je compte que la première version de sortie, pas tous les portages sur toutes les consoles. Hein, c'est, voilà. Donc, un point par bonne réponse à 3 années près et 3 points pour un tout pile. Je prends un petit papier et je vous passe le premier extrait. Tu m'as dit un truc en off, t'as dit, tu m'as dit quoi?
Ça pue le niveau aquatique.
Ouais,
le niveau
ouais carrément. Ouais.
Ce morceau s'appelle Aquatic Ambiance. Hein.
Oui, bah du coup, ça m'étonne pas, c'est le genre de morceau sur lequel je rage à chaque fois.
Comment ça? Tu veux dire que les niveaux sous l'eau sont assez durs?
C'est pas assez dur, c'est merdique. Là, par contre, j'ai bien choisi mon mot. Je vais pas dire complexe.
Je vais vous en dire un peu plus sur ce morceau après. D'abord, messieurs, une année pour ce morceau.
Oh, je vais rester sur... Non, je vais dire 2015. Ouais, bah c'est pas ça.
Clem ?
Ouais. Moi, je suis sur l'année de naissance de Rebecca Black, 1997. Ok.
Rebecca Black, c'est qui déjà ?
J'en ai aucune idée. En fait, j'ai choisi mon année, puis après, j'ai été se voir les naissances en 97.
Elle est si vieille que ça, Rebecca Black, maintenant ?
Bah,
c'est pas la meuf qui a fait Friday.
Oui, oui.
Je
suis vieille.
Bah, bah oui.
C'est toi qui es vieux.
c'est la meuf, c'est son papa était producteur, alors elle a fait un tube comme ça. bref, ce morceau que vous avez entendu est tiré du niveau aquatique infernal de Donkey Kong Country.
Ah, mais oui!
C'est un morceau sorti donc sur Super Nintendo. Ce jeu date de celui de la Super NES. Donc c'était 1994. Du coup, Clem, à 3 années près, tu as un point.
Ouais!
Ouais, putain, je savais pas qu'ils étaient capables de faire des sons aussi propres à l'époque.
Voilà, c'est alors la BO de Donkey Kong Country est excellente, mais surtout ce morceau en particulier, moi j'ai toujours été épaté parce que t'as une espèce d'épaisseur dans la composition. Alors pour info, le mec qui a composé ce morceau s'appelle David Wise. C'est un morceau qui est très ambitieux parce que bah du coup on est sur une console 16 bits, donc c'est un peu du travail d'orfèvre de faire un truc aussi précis avec autant de couches d'effets et tout. Et sans que ça sonne cheap, il y a quelques sons où tu dis oui, ok, ça fait un peu daté, l'espèce de faux harmonica. Qui ressort un peu du lot, mais c'est vrai qu'autrement, il y a beaucoup de sons que je trouve qui ne vieillissent pas tellement. Donc voilà, donc pour l'instant, ça nous fait un petit point pour Clem. Je vous propose le deuxième extrait.
Ouais.
Arrête, on dirait une maison de retraite là. Messieurs, après ce petit moment un peu tristounet mais joli, est-ce que vous avez une année pour ce morceau?
Moi, je vais dire 98.
Léo dit 98.
Moi, je vais dire 2001, l'année de sortie de Discovery. Parce que ça m'a fait penser à du Discovery.
C'est marrant, ça. Alors, ce morceau s'appelle Spirit in of the Night, qui est tiré du jeu Secret of Mana, qui est un jeu également sorti sur Super Nintendo. Alors, le jeu...
95
93 au Japon, 94 en Europe.
Ah, putain.
En fait, j'ai fait exprès de prendre... du coup, la même console, la même période, mais c'est pas du tout la même approche.
Non.
Du coup, ça fait un bon point de comparaison. Ça a été composé par Kikuta Hiroki. Et du coup, c'est assez marrant parce que Secret of Mana, si je dis pas de bêtises, c'est Squaresoft. Et il y a beaucoup de... Si vous avez joué à des jeux genre Chrono Trigger ou d'autres jeux de cette époque-là, en fait, il y a une sonorité, notamment au niveau des... au niveau des synthés qui est quand même assez assez caractéristique et qu'on retrouve assez bien et mais pour autant je trouve ça assez joli tu vois enfin après il y a d'autres morceaux où ça fait vraiment kitschoun parce que c'est plus agressif mais...
ça me fait penser à du Zelda notamment le putain pas Majora's Mask mais celui d'avant
moi ça me fait penser à A Link to the Past.
Ouais, non, plus, non, moi, plus, même, putain, comment il s'appelle, le meilleur jeu de tous les temps, enfin, ce catégorisé, le Zelda, putain, j'ai oublié son nom.
La bataille.
La bataille.
Ocarina of Time, tu veux dire?
Ocarina of Time, tout à fait. Ça me faisait penser à du Ocarina of Time, un peu.
Bah, c'est à peu près la même période, si je dis pas de bêtises.
Ocarina of Time, c'est 98, je crois.
80, ouh, je crois que c'est 96-97, mec. Hein.
Bah, attends, c'est pas sur la Super NES.
Bien sûr, non. T'as raison, 98. J'aime bien ce jeu, il y a plein de musiques très intéressantes et celle-là en particulier, je trouve qu'elle a très bien vieilli, donc je voulais vous la faire écouter. Donc pour l'instant, bah, je suis désolé les gars, mais ça fait 0-0.
Non, ça fait 0-1.
Bah non, je...
Non, 0-0 sur cette... Non, mais sur, cette, sur ce, cet extrait-là. Oui, sinon il y a un 0. Troisième extrait.
Absolument.
Non. Ok. Est-ce que vous avez une idée de quand ça peut dater?
Alors, vu que Léo veut pas se lancer, je vais dire 2012.
Okay.
Parce que ça me fait penser à la musique d'un jeu indé auquel j'ai joué. Je me demande si c'est pas ça.
Je pense exactement la même chose. Je pense que.
Alors c'est... moi, le jeu, c'est Thomas Was Alone.
Pas du tout.
Et, bon, bah, peut-être que je me plante, mais je teste.
Non, mais pas du tout. C'est moi, je pensais plutôt à un truc. Je pense que c'est 2014. Et moi, c'est. Comment il s'appelle ce jeu? Putain, vu du dessus, tu dois tuer des gens.
Putain, vu du dessus, tu dois tuer des gens. C'est un nom vachement long. Ouais.
Non, mais le but, c'est que t'as des niveaux. Il faut pas. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Putain, j'ai un trou de mémoire. C'est l'enfer. Je retrouverai. Très bien ce jeu.
Ce morceau s'appelait Puzzle. Je trouve que c'était rigolo parce que du coup ça fait bien musique énigmatique et ça tombe bien parce que c'est un jeu à énigmes. Bon, c'est tiré d'un jeu dont vous avez potentiellement entendu parler parce que c'est un jeu indé qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'est Fez.
Ah, c'est Fez ça?
Exactement.
Ah ouais.
C'est une des bandes son du coup, vu que c'est un jeu avec une esthétique très très rétro, très faussement comment dire, faussement cheap, un peu glitché et tout, c'est un jeu avec un univers vraiment très intéressant. Et du coup...
T'as un tout pile.
Exactement, voilà. Clem, tu as totalement raison, c'est 2012.
Ah bah j'avais pas le bon jeu, mais j'avais la bonne année.
Ouais, c'est pour ça. Je me suis dit que t'avais les... Je me suis demandé d'ailleurs si Fez, t'y avais pas joué toi, mais...
Mais moi j'y ai joué.
Non, ça me dit rien. Ça s'écrit comment? F-A-Z-E?
F-E-Z. C'est un... Ah. Alors, t'as peut-être vu, c'est
genre,
un
Fez,
jeu...
Genre étudiant étranger, quoi.
C'est ça.
C'est un jeu en 2D, mais en fait en 3D.
C'est ça, c'est un jeu
en 2D où tu peux changer la 3D.
C'est ça, en fait, tu tournes. C'est un jeu énigme où vraiment, en fait, genre, tu dois trouver des petits cubes dorés et t'es un petit personnage un peu en mode jeu de plateforme, et en fait tu tournes l'écran et tout, et avec une esthétique très pixel qui est vraiment très intéressante.
Ouais, mais tu sais, moi j'aime que les Call of Duty au final. Hein.
C'est totalement faux.
Non, je pensais, j'ai retrouvé le nom du jeu, c'était Hotline Miami. Tu vois, ça aurait pu être un truc de Hotline Miami. Mais c'était 2012 aussi, Hotline Miami, oui, donc vrai. Je suis nul.
C'est pas grave.
Mais en fait, j'ai du mal à me dire que ces jeux ils datent de 8 ans en fait. Hein.
C'est ça. Mais Léo, tu sais que t'as un point quand même là-dessus. De 23
ans. Ouais, non, pour moi c'est le tout pile qui l'emporte.
Ouais, mais c'est déjà bien. Alors, juste pour parce que moi je sais que j'ai beaucoup aimé ce jeu, mais surtout j'ai beaucoup aimé l'ambiance musicale. C'est un mec qui s'appelle Disaster Peace qui a écrit ça. C'est un artiste de musique électronique qui est très axé sur la chiptune, donc justement, c'est une musique inspirée des moyens techniques des vieux jeux vidéo. Et il arrive à faire un truc à la fois poétique, mystérieux, déstructuré. Je conseille le jeu parce qu'il est cool et parce que vraiment la musique elle colle parfaitement à l'ambiance visuelle et tout. Donc voilà, c'est un morceau que je trouve sympa, mais dans une BO qui est très complète. Et puis je vous conseille de jouer à Fez. Pour l'instant, notre score est de 4 à 1. Il y a donc une petite chance pour Léo de revenir à égalité, mais voilà, c'est à lui d'être bon sur la dernière. Et espérer que Clem ne sache pas. Bref, je vous propose ce dernier extrait. Alors messieurs, est-ce que ce dernier extrait vous a inspiré ?
Moi je reste sur 2014.
Alors moi je pense que c'est pas sorti sur Super Nintendo.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ? La qualité des sons peut-être ?
C'est ça. Ou alors ça a été remixé depuis, ils ont fait une version remasterisée.
Ah non, par contre j'ai pas triché, j'ai pris que les versions d'époque des trucs.
Ah ouais. Sinon... vu que j'ai pas trop d'idées, je vais taper sur une année ronde et je dirais 2010.
Ok. Alors le morceau s'appelle Nano Robot Tune. J'ai choisi ce morceau parce qu'il ressort un peu du lot. Il y a un côté un peu hip-hop, un peu bruitiste. Mais j'aurais pu mettre n'importe quel morceau de la bande-son de ce jeu qui s'appelle Machinarium. Alors Machinarium, c'est un point and click avec un petit robot dans une ville industrielle. C'est un jeu auquel j'ai joué il y a quelques années, qui est très sympa, un peu poétique, très rigolo. Enfin, vraiment une très bonne ambiance. C'est un jeu tchèque. C'est pas tous les jours qu'on a des jeux de chèques, ouais. Donc je le précise. Et le compositeur aussi, puisqu'il s'appelle Thomas Dvorak, ce qui s'invente pas quand même, et qui est autrement connu sous le nom de Floex, donc peut-être que ce nom vous dira quelque chose. Donc en fait, il fait des mélanges un peu de musique électronique, un peu ambiante, pas mal de trucs bruitistes, mais il y a aussi pas mal d'instruments traditionnels. Le gars joue de la clarinette aussi, ça se retrouve sur d'autres morceaux, donc ça donne un vrai caractère à la musique du jeu. Et du coup, ce jeu est sorti en 2009.
Bien joué!
Oh. Ce qui fait que Clem gagne à nouveau un point.
Et que Léo, fire.
Tu es en fire. Hein. Tu ponctues quand même ce jeu pas facile avec 5 points.
Waouh.
C'est propre.
Je crois que c'est un des meilleurs scores.
C'est possible. Bah, en tout cas, avec des scores normaux et. C'est pas comme quand Chloé nous disait bon, bah toi t'auras 40 points.
et toi t'as deux malabars.
C'est ça.
Je vais peut-être aller me le faire tatouer mon score.
Mais en tout cas, Machinarium, c'est un petit jeu si jamais vous avez l'occasion. Moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez un peu le délire point and click et tout, et rien que regarder un peu des images, voir à peu près comment ça fait, ça a vraiment une direction artistique très intéressante. Et la musique s'intègre très, très, très bien au jeu. Donc voilà, c'était cette petite cuvée, brillamment remportée par Clem. Léo pleure
Bravo.
Dans ses cheveux actuellement. Non, et non,
merci, merci.
Il t'a applaudi quand même, c'est un mec bien.
Construisez des statues en mon honneur.
Quelle taille ?
Grande.
De 3 cm.
Ce qui est pas mal déjà.
Grande. Ah, apparemment, il y a, je savais pas, mais à Moscou, il y a une statue qui fait genre 150 mètres de haut. Un truc
de Klem ?
Non, mais on pourrait remplacer la tête.
J'allais dire, ils auraient pu me le dire quand même.
Je fous. Cher russe, depuis quand il y a une statue ? Bon, bisous. Eh bien, écoute,
Monsieur
après
Poutine.
Ce jeu. Après ce petit jeu donc brillamment remporté par Clem, il peut peut-être nous apporter le dessert.
Il a bien déjeuné le monsieur. Il veut pas un dessert le monsieur.
Oh, triangle, bas, X, gauche, droite, Y, carré, oh. Excusez-moi, je rentre le cheat code pour pouvoir faire une bonne chronique au mois de juillet. Après, ce n'est pas les cheat codes qui font les bons joueurs. Le jeu vidéo, vaste sujet composé de deux mots. Et vous m'excuserez, je pensais faire l'entrée, donc du coup je m'étais dit je vais définir le jeu vidéo. Mais là maintenant c'est un peu tard. Donc c'est quand même pas grave. Le jeu, d'abord, est par définition une activité d'ordre physique ou mental non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire ou monétaire, et à laquelle on s'adonne pour se divertir et en tirer un plaisir. Vidéo, ensuite, nous vient du verbe latin videre, conjugué à la première personne du singulier de l'indicatif présent, je vois. Ceci désigne toutes les images animées que l'on peut voir sur un écran, quelle qu'elle soit. Il est donc normal qu'en développant le jeu vidéo, une activité vidéo ludique basée sur de l'image animée contrôlée par le joueur, on développe également l'audio du verbe latin audire, conjugué à la première personne du singulier de l'indicatif du présent. J'entends. Voilà, c'était le moment Jamy.
Merci Jamy.
Comme moi, vous avez joué à ce jeu, vous venez d'enfoncer la gâchette gauche et d'écraser votre joystick vers la droite, prêt à enchaîner les grands sauts, les petits sauts et les coups de poing pour écarter de votre route d'éventuels ennemis, pour essayer d'attraper ce faquin de coffre qui essaye d'échapper à votre courroux pour récupérer une vieille dent en rubis. Vous n'avez rien compris ? Pas grave, je vous explique tout. On s'intéresse aujourd'hui à la musique de Rayman, et plus particulièrement à celle de Rayman Origins et Rayman Legend, sortis respectivement en 2011 et 2013. Fuck les lapins crétins. Moi, je vous parle de Rayman, celui créé par Ubisoft en 1995 dans le jeu éponyme. Ce personnage évolue dans un monde imaginaire. Il n'a ni bras, ni jambes, ni cou, mais a des mains, des pieds et une tête qui gravite bien autour d'un espèce de corps. Il lance ses poings et vole avec ses cheveux. Oui, le jeu vidéo n'est pas toujours logique, donc évitez de reproduire ce genre de cascade, quelle que soit la marque de votre shampoing. Vous avez joué du coup à Rayman Origins ou Rayman Legends ?
Oui, plein de fois.
Toi, je sais.
Moi, j'ai joué Léo. Au tout premier aussi, quand j'étais gamin. Et je sais plus auquel j'ai joué, je sais plus si c'est Origins ou Legends, mais j'en ai fait un des deux, que j'ai pas fini, je crois. Mais,
Donc, t'as déjà joué ?
Ouais, ouais.
T'as déjà joué, parce que du coup, les deux ont à peu près le même gameplay.
Oui, oui, non, je vois bien le genre de jeu, effectivement. Ouais. Et je comprends pourquoi tu vas en parler aujourd'hui.
Après 3 opus et une absence de 8 ans, il revient en 2011 avec Rayman Origins, un jeu en 2D pouvant se jouer en multijoueur local, sans internet, c'est-à-dire avec 4 personnes dans la même pièce. Développé par Ubisoft France, le jeu propose plusieurs mondes ayant chacun plusieurs niveaux, chaque monde ayant une identité qui lui est propre, la jungle, le monde de glace, le monde aquatique, le monde de la nourriture, le désert, la montagne et bien d'autres. Chaque monde est marqué par des thèmes musicaux qui lui sont propres, dans des styles différents. Petit pot-pourri. Allez, je vous ai fait une petite sélection et vous essayerez de me retrouver. Donc, regardez pas le Watch Together et vous essayerez de me dire, selon vous, c'est quoi comme ambiance. Vous avez imaginé des mondes derrière ces musiques ?
Ouais.
Ouais. Le premier, j'avais l'eau. Je sais pas si.
Ouais, c'est clairement de l'eau, ça.
C'est l'eau et je dirais même c'est l'eau sans lumière. C'est pas celui-là ?
Ouais, peut-être. Je sais pas exactement. J'ai pas rejoué au jeu pour faire la chronique. Mais par contre, je vais y jouer après parce que ça m'a donné envie.
Le deuxième, t'avais, toi, Manu ?
Le deuxième. Celui avec la guimbarde et tout, c'est pas genre le désert, ça ?
Moi j'aurais dit la jungle.
Non, c'est la jungle, le deuxième.
Ah oui, c'est la jungle, exact. Bien vu.
Ouais. Ouais, le truc de. Enfin, Tarzan un peu.
Le troisième, c'était. Vous l'avez pas ?
Moi, c'est l'air. Enfin, c'est celui dans les airs et tout, ils sont avec les
moustiques.
Ouais, c'est
la montagne.
Ah, c'est la montagne.
Moi j'avais un truc de muraille, tu sais, genre un peu.
Ouais, bah voilà, c'est ça. C'était vachement haut et puis t'as plein de. Voilà, c'était un peu dedans. Et le dernier, c'était...
Les égouts ?
Non, le dernier, c'est la glace. Oh, moi, je l'ai appelé frigo.
La glace ?
Ouais.
Ah ouais ?
Non, c'est la nourriture. Ouais.
C'est la bouffe, ouais, en fait.
Ah, la bouffe.
C'est les parties où t'es dans des garde-manger avec des trucs géants. Enfin bon, bref,
c'est
après,
dans une espèce de
passer la jungle, tout
ouais,
ça. À la composition, on retrouve un certain Christophe Hérald, un compositeur français ayant participé à plusieurs bandes originales de dessins animés et ayant déjà réalisé la musique de Beyond Good and Evil. Jeu vidéo du même créateur que Rayman Origins. Multi-instrumentiste de talent, il vagabonde entre de multiples styles musicaux pour fournir à Rayman une bande-son digne de son univers déjanté. S'amusant à pitcher les voix, les rendre plus aiguës ou plus graves en post-production, à mélanger divers instruments de différentes cultures. Parmi les nombreux niveaux que comporte le jeu, un type en particulier retient l'attention des joueurs, les coffres. Leur aspect technique, étroitement lié à la musique, que vous avez entendu au début de cette chronique, va ravir les joueurs qui doivent finir tous les niveaux pour assembler le dentier de rubis de la mort pour accéder au tout dernier niveau du jeu. Oui, le jeu vidéo, c'est pas toujours logique, ok ?
De toute façon, ce niveau, c'est Mathias Malzur en Contraignant Morricone.
Ah ouais, ah, je vois ce que tu dirais.
Constatant le succès des niveaux coffres, le studio souhaite mettre l'accent sur ceci dans le prochain opus de la saga, Rayman Legends. Les designers ont adapté le gameplay à la musique, calant des actions de bruitage en fonction du rythme à la bande-son. L'objectif était de faire un croisement entre un jeu de plateforme et un jeu de rythme. Point d'orgue du jeu, les niveaux musicaux. Qui prennent le relais sur les niveaux coffres. Même principe, à la fin de chaque monde, le joueur débloque un niveau musical. Chaque action doit être réalisée en rythme sur la musique, et la moindre erreur est fatale. Cependant, les musiques sont ici des reprises proposées par les équipes d'Ubisoft, travaillant sur le jeu. qui seront adaptés dans le style général du jeu, dans le style de Christophe Hérald. Je vous laisse essayer de retrouver les reprises des chansons ci-après. Alors, ne regardez pas le Watch Together, c'est cheaper. Les morceaux quand même.
Donc je le premier que... c'était Black Betty.
Ouais c'est ça.
Le deuxième alors je connais mais je sais pas
ouais, je sais pas comment il s'appelle le nom.
De ce alors c'est le nom de la chanson s'appelle Houhou des The 5678.
Ah qui est donc Kill Bill.
Exactement.
Je crois ouais. Après il y avait
Antisocial
de Trust.
Après je sais plus comment.
Il y a eu Eye of the Tiger.
Ah, c'était ouais. Le dernier, non?
Ouais, et il y en a un avant, c'était...
Non, non, j'en ai quatre.
Ah, t'en as quatre, pardon.
Oui, oui, avant, c'est... juste avant, c'était Eyes of Tiger ouais, de Survivor. Donc pour ces niveaux, une tête de lecture a été intégrée au game design qui permet de recaler le joueur de quelques millisecondes afin que tout colle et de jouer les sons au bon moment sans que cela soit disgracieux. Comme vous l'expliquiez Manu tout à l'heure, c'est un procédé qui peut être mis en place dans les jeux vidéo quand la musique a son importance. Quand le joueur a fini le jeu, il peut débloquer tous les niveaux musicaux en niveau expert. L'audio prend alors l'ascendant sur la vidéo, car l'écran est perturbé. Neige sur l'image, dédoublement, miroir aléatoire, tant d'éléments qui viendront gêner le joueur, qui doit se concentrer uniquement sur la musique et son expérience passée sur ses niveaux. Difficulté supplémentaire, toutes les musiques sont en 8 bits. Tous ces éléments et bien d'autres font de la musique de Rayman une superbe bande originale. Elle peut être écoutée indépendamment des jeux parce qu'il y a un vrai travail sur la texture de la musique, la recherche des sons, des ambiances et des thèmes. Et en même temps, c'est logique. Origins et Legends sont de très bons jeux, accessibles à tout public, débutant comme expert. Tout le monde jouera avec plaisir parce que c'est un jeu qui a été fait avec plaisir et la bande-son a été composée avec beaucoup de plaisir. Ça s'entend et ça se voit quand on y joue. Bon allez, c'est tout pour moi, je viens de finir le niveau 19 du podcast Game, édition Tartim. Merci le cheatcode.
Bien joué.
Du coup, Legend se retrouve beaucoup plus sur les consoles maintenant. Origins n'a toujours pas été refait pour les nouvelles générations, donc Xbox One et PlayStation 5.
Ah, il date de 360.
Ah oui, oui.
Ouais. Et par contre, du coup, Legends a été porté sur toutes les nouvelles générations de consoles, notamment la Switch, la One, la PlayStation 5. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Merci.
Sur la 5.
Et du coup, Legends incorpore un grand pan de Origins. Donc, du coup, voilà, vous pouvez rejouer au meilleur niveau de Origins dans Legends. Donc, voilà, si vous devez vous mettre à Rayman, à ces jeux-là, prenez Legends, il vous familiarisera avec le tout et vous aurez les niveaux musicaux. Et après, vous pourrez quand même jouer un petit peu à Origins, même s'il n'y a pas l'intégralité des niveaux. C'est quand même cool.
Ce qui est déjà pas mal. Rien d'autre à ajouter sur ce sujet, mais de toute façon, tu as conclu en beauté. Je voulais juste vous demander si vous aviez des petites recommandations à faire à nos auditeurs.
Allez jouer à The Binding of Isaac, j'en avais déjà parlé, mais c'est hyper cool si vous êtes là et que vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez rager sur votre ordi et en même temps découvrir des nouvelles choses sans cesse. The Binding of Isaac est vraiment très cool.
Qui est un jeu qu'on peut mettre en lien avec notre jeu sur notre goûter sur la déviance, parce que
oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait vous rentrez dans dans le vagin de maman à partir d'un moment donné, et puis vous allez vous battre contre elle et en fait c'est Satan, et on sait pas trop ce que c'est, mais tous les objets sont dégueux, tous les persos sont dégueux, et
le jeu est extrêmement agréable à jouer, une rejouabilité de dingue. Après c'est vrai que sur le,
je suis rendu à 200 heures, donc oui, ça a une rejouabilité de dingue.
Après c'est sûr que sur le fond du truc ça peut être malaisant des fois, donc autant vous
après bon c'est après, pas ouais. Un jeu que tu joues pour l'histoire,
c'est ça. De toute façon, ouais, si vous aimez j'allais dire à peu près tous les jeux qu'on a cités pour l'instant, c'est testez-les pour voir à peu près à quoi ça vous si ça vous inspire, si vraiment vous aimez avoir vraiment de la musique dans les jeux, c'est vraiment que le jeu ait une partie vraiment intégrante du jeu, non que la musique.
J'ai retrouvé ma sauvegarde Autoki d'ailleurs, hein, au Japon.
Envoyer une message.
Oui, les running gags arrivent.
Nous allons chercher nos auditeuristes japonais si jamais ils ont retrouvé ta sauvegarde, on sait jamais.
Quand on s'y met bien, auditoris, hein.
Ouais,
ça marche bien.
En fait, ça sonne plutôt bien. Clem, t'avais un truc à conseiller, toi ou pas?
Ouais, deux choses. Un jeu qui s'appelle Beat Buddy. Du coup, qui est un jeu qui se joue en rythme aussi et où en fait il réutilise des sons de Power of Stellar, des trucs comme ça.
Ah, cool.
Qui est plutôt cool. Et en fait, le déplacement du personnage se fait en rythme et du coup, il faut vraiment passer les pièges, les ennemis, en ayant vraiment un très bon rythme dessus. C'est plutôt sympa, mais il n'y avait pas de quoi faire une chronique dessus. Et sinon, si vous
comment
aimez
ça la... J'ai pas la chronique.
Non, parce que toi, du coup, tu as des musiques créées spécialement pour le jeu où il décline en fonction du perso. Donc oui, il y a vraiment moyen de faire une chronique. Si tu veux, moi, à part dire, du coup, c'est cool, il y a la musique de Power of Stellar.
Ah oui, d'accord. Ah, c'est vraiment, ils
ont pris des musiques de DJ, des trucs comme ça, et ils ont balancé dedans, et c'est sur le rythme, il n'y a pas grand-chose de plus. Par contre, tu tapes dans certains éléments, ça fait genre psh pour faire une cymbale. Vous avez vu, je fais vachement bien la cymbale.
Tu fais bien la cymbale.
Merci. Rendez-vous au mois prochain pour un nouveau son de batterie. Et du coup, ça et un podcast qui s'appelle Les Démons du Midi de Geekzone, qui traite exclusivement de musique de jeux vidéo. C'est super sympa à écouter. Voilà.
Et ils seront peut-être beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais peut-être
plus précis. Ils seront
meilleurs que nous. Bah, plus, même,
plus précis. Voilà. Pas plus compétent, mais plus précis.
C'est leur domaine de prédilection. Donc,
nous, on est allé sur un terrain qu'on maîtrise pas trop, même si on connaît deux trois trucs en jeu et en musique. Mais bon, voilà. D'ailleurs, ça me fait
penser.
J'ai
déjà joué à Pac-Man.
J'ai 200 heures sur Binding of Isaac. T'es genre le mec qui radote. Je n'ai pas de vie. C'est pour ça que j'écris mes chroniques à moitié et je joue à Binding of Isaac. Je veux le finir.
Je n'y arriverai jamais. D'ailleurs, Clem, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça me rappelle Audio Surf. Alors, pour ceux qui ont connu ce jeu au milieu des années 2000,
ça me dit quelque chose.
C'est un jeu en fait on contrôle un petit vaisseau, si je dis pas de bêtises. Ça fait un peu un mode jeu de course, mais en fait, qui est basé sur la musique. C'est-à-dire que vous choisissez une musique que vous avez sur votre ordi, votre disque dur, bref. Et en fait, vous l'implantez dans le truc, et en fait, ça génère une map. En fait, le but c'est de passer à chaque fois sur les trucs lumineux. Ça peut faire penser du coup à un truc un peu à la Guitar Hero, mais du coup, adapté sur. sur un espèce de jeu de course où à chaque fois il faut déplacer sur différentes lignes votre véhicule en fonction des lumières qui s'activent, en fonction de la musique que vous avez choisie. Et vu que bah, en fait, vous pouvez mettre toutes les musiques que vous voulez, et ben à vous de vous amuser sur un truc bien hardcore pour voir si c'est possible ou pas. Et voilà, donc Audio Surf qui est sorti je crois en 2008 ou un truc comme ça, qui est facile à trouver et tout, je vous conseille, c'est rien de très compliqué, mais c'est un
jeu qui marche pas sur Mac parce que j'ai jamais pu y jouer moi, mais
c'est vrai, voilà. Ah merde.
Oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais joué à Audio Surf.
Pauvre voilà. De toi. Ouais, maintenant je suis triste. Moi j'avais un petit conseil qui est pas en rapport avec le thème du jour mais qui parle de musique quand même. Notre petit camarade de 1AM Podcast, il a commencé un joli projet pour la rentrée.
C'est bien 1AM. Allez écouter du 1AM. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, j'avais oublié, j'étais en train d'écouter.
Mais parce que je crois qu'on l'a déjà dit précédemment.
Oui, mais on peut le redire. Allez écouter du 1AM.
Toujours.
Parce que c'est bien de faire
un AM comme une heure du mat sur une voilà, vous voyez pour. Donc ouais, il est sur un projet là qui parle de la garage, enfin la garage en l'occurrence. Donc une musique qui est un peu dans le prolongement du disco et de la funk, qui va être un peu le précurseur de la house. Donc là, écoute, t'as qu'à participer au truc, et après tu pourras dire, voilà. Donc en fait c'est un projet un peu collaboratif pour l'instant, c'est-à-dire qu'il organise des petits lives sur Twitch où il fait de la recherche, on met du blabla, on passe des sons, enfin voilà. Pour l'instant je sais qu'on est trois avec lui et avec notre super fan Arthur Froment où on a un peu... dégrossit un peu le truc, mais voilà, je vous conseille de suivre un peu ce projet-là, et dans tous les cas, si vous pouvez pas le suivre sur Twitch, vous verrez un peu le résultat à partir du mois de septembre, normalement. Donc voilà. Il est temps d'éteindre la console ou le PC. Pas de guerre de clocher ici, vous avez le droit d'accepter les deux dans vos chaumières. Merci à toutes les oreilles qui nous ont suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, et puis aussi les playlists de nos épisodes sur YouTube et Spotify et Deezer dans la mesure du possible. Si vous aimez notre cuisine, vous pouvez nous le dire déjà, c'est sympa. Et puis nous soutenir, nous et notre gentil label Podcut, si vous voulez filer quelques petits sous. Parce que voilà, nous on aime bien quand on fait des choses que bah qu'on envoie un peu le voilà, c'est encore une phrase qui n'était pas écrite et du coup je vais nulle part avec ça. Donc on
en gros, on va faire le cliché de si vous aimez un truc, dites-le. Ça nous permettra de nous sentir bien parce qu'en fait, on fait ça vraiment que pour la reconnaissance extérieure.
Oui. Parce
que pour l'instant, on est vraiment en manque d'amour. Donnez-nous de l'amour.
C'est ça.
C'est tellement nul. Non, mais en vrai.
Un like, 5 étoiles et 10 balles.
Non, mais en vrai, c'est sans déconner, c'est toujours agréable aussi d'avoir. Parce qu'on sait que dans le podcast, effectivement, les gens donnent pas vraiment leur avis et j'en fais partie, alors qu'on devrait le faire, en fait, donner nos avis plus que ça, mais en fait, si on aime bien, allez, donner 5 étoiles sur iTunes.
Et si on aime pas, faut le dire aussi.
Ouais, mais dites-le nous en DM, quoi. Que les gens ne sachent pas.
Un podcast anti-nous qui va se faire. Mais
non, mais attends, déjà si les gens nous aiment pas, ils auront pas écouté jusque-là. Voilà.
C'est vrai, bah, j'espère, hein, putain.
Sinon, arrêtez, vous êtes salaud, quoi.
Le hater consciencieux, quoi. dans nos dernières tartines, vous avez pu écouter récemment notre goûter numéro 5 avec Alex de Podcast, avec qui on a parlé de déviance. On a notre épisode sur La Même Pas Pareil qui est sorti sur Rum & Coca-Cola. J'en profite aussi pour vous teaser le gros projet de l'été, dont j'avais parlé très brièvement sur Twitter, mais du coup je vous précise un petit peu plus le truc. Donc je travaille sur un gros épisode de Blues from the News qui va parler de la révolution chantante. Donc c'est un truc dont on avait rapidement fait référence quand on a parlé des musiques sur les Jeux Olympiques. Pour faire simple, en fait, c'est une révolte populaire qui a eu lieu dans les pays baltes à la fin des années 80, qui a été portée par la musique et qui a mené à l'indépendance des trois pays. Donc je travaille sur ce gros truc, sur la révolution chantante. Ça va être la plus grosse tartine qu'on ait fait jusque-là. Donc j'espère vraiment, vraiment qu'elle va vous plaire, qu'elle va bien tourner. Déjà parce que c'est beaucoup de boulot, et ensuite parce que c'est une histoire incroyable et qui est très peu connue. Donc j'ai vraiment envie que, voilà, je trouve que c'est important que les gens apprennent des choses sur ce sujet.
Et pour rappel, quand Manu dit « nous », c'est lui, vraiment, c'est lui tout seul, on ne participe pas. Voilà.
Ah, mais là, actuellement, je suis pas tout seul à faire trois voix différentes, tu vois.
Oui, mais sauf que là, la révolution chantante, c'est ton projet à toi, c'est toi qui le fais tout seul.
Oui, mais les gens doivent le savoir.
Non,
je crois qu'ils pensent que c'est toujours Clem qui fait les trucs. Non,
je sais.
Oh non, mais on sait que je fous rien.
Ah bah ouais. Bref, bah voilà, moi la dernière phrase qui me reste, c'est bonne digestion et on se retrouve au prochain buffet.
Allez, bisous.
Tchuss.